à aujourd'hui. Le garage à Dan, le boulevard du rock, le rock and chill, le rock à mat. Boulevard 102.1, la meilleure musique de la business.
102.1.
Boulevard!
102.1.
On en jase à Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Le midi,
on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission du midi. Ton émission, on fait le tour de l'actualité pour toi, on parle des grands enjeux. Et on s'amuse aussi. Aujourd'hui à l'émission, on va notamment parler de violence dans les écoles avec le prof Duclos. On va aussi parler d'homophobie, excellente chronique. Du chroniqueur dans le Nouvelliste, Martin Franqueur. Imagine-toi donc, Charles Milliard et Éric Duhem sont rendus des chefs de partis politiques. Les deux ont avoué ouvertement être homosexuels. Il y a des gens qui écrivent à Martin Franqueur, qui également est homosexuel. Ça n'a pas d'allure. Les gays nous envahissent. Et encore en 2026, Pascal. Urk! Donc ben rétrograde. On va parler de ça. Et également, on va jaser d'itinérance avec Marie-Lie Plante du RAIC. Grosse sortie hier des organismes communautaires en itinérance à Québec. Accompagné par Québec solidaire, on demande des plans de match à Bernard Dréville et Christine Fréchette. 50 personnes itinérantes maintenant par soir à Québec qui n'ont pas de place dans les refuges. Les refuges débordent. C'est une première. Puis j'ai l'impression que ça va juste s'empirer. Donc on a tout ça à l'émission pour vous. On va également revenir sur le procès de Mathieu Martel avec l'excellent journaliste du Journal de Québec, Pierre-Paul Biron. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Tu sais, c'est ces semaines-là où tu dis « Ah, on est déjà vendredi. » Ça veut dire que la semaine a bien été.
C'est vrai, ça.
Puis je t'en veux.
Comment ça?
Je suis un peu pas fâchée contre moi, mais je suis déçue de mon collègue avec qui je passe tant de temps. Bonjour Farnel qui se joint à nous en passant
dans
quelques minutes.
Pourquoi t'es déçue de moi?
Parce qu'on a pris du temps aujourd'hui pour jaser ensemble de tout ce qui n'est pas un show puis de la radio.
T'as raison.
Puis il y a une affaire que tu ne peux pas raconter. Je sais que tu l'as raconté le matin.
Oui, je l'ai raconté
le
matin.
Je m'en fous, OK, que tu l'aies raconté ce matin. Je veux juste faire une parenthèse. Puis on peut ouvrir le micro de Farnel qui est là aussi. Mais je suis crampée que ton fil d'ordi...
Oui.
A comme cessé de fonctionner. Puis là, tu es allé voir le tech, puis tu as dit, mon fil d'ordi fonctionne plus. Fait qu'il a dit, ben oui, effectivement, je constate. Fait que lui, il s'en va voir la chef comptable.
Ouais.
Puis la chef comptable dit, non, Jeff va le payer de sa poche.
Ouais.
Avez-vous déjà entendu ça en entreprise? Je fais un bronze.
Ben oui.
Il est comme, voyons, c'est bien
bizarre. 418-971-102.
Puis dans le fond, c'est que la chef comptable, c'est la copine, donc la conjointe de Jeff.
C'est ça.
Et à la maison, semblerait-il que ça fait des semaines qu'elle dit à Jeff, laisse pas traîner ton fil, le lapin va le gruger. Et le lapin a grugé le dit fil, donc elle refuse que l'entreprise...
Non, ça passe pas. Ça, c'est un conflit d'intérêts inversé.
Je braille de rire depuis tantôt.
Donc, je suis obligé de payer mon fil.
Parce que sa blonde, il a dit à la maison, ben elle dit, c'est pas vrai que l'entreprise... Puis elle défend l'entreprise devant son chum, va payer ton nouveau fil parce que je te l'ai dit à ma
Et là, Nick, le propriétaire, qui dit Val, j'avais toujours su que t'étais une fille loyale.
Ah non, mais c'est pas, ça n'a pas de bon
c'est
sens.
C'est tellement bon, cette histoire-là.
Faut t'es que en train
de es financièrement pénalisé pour avoir une relation sociale intime avec un membre de.
Le gars de droit,
non,
le
non.
gars de droit qui a.
Ça, là, ça passe pas.
Puis là, Farnel, tu vas être d'accord avec moi, je comprends pas parce que les nouveaux comptoirs sont installés cette semaine. La cuisine est flambant neuve.
Ben, j'espère que tu vas à ton... J'espère que tu gardes ça dans ta poche arrière pour le bon moment.
Mais je pleure.
Tu sais, normalement, ma conjointe serait censée dire hey, c'est cool, on a une nouvelle cuisine.
Ouais.
Serait censée voguer sur un nuage et dire ah, Kaylin, il n'y a pas de trouble. L'entreprise va payer le fil. Non, je vais payer le fil.
Écoute, la prochaine fois qu'il veut prendre une journée de congé parce qu'il est malade puis tu sais qu'elle ne l'est pas, j'espère que tu vas la dénoncer.
Mais elle ne fait pas ça.
Bon, OK.
Il va falloir la pogner sur autre chose.
Ouais. Elle est malade par-dessus la tête, puis elle travaille.
Ah, il faut du tac au tac. Il faut que tu répondes.
OK, alors la prochaine étape dans le cas de Jeff Farnel, quelle est-elle? Tu proposes quoi?
Ouais. Je fais quoi, mon juriste préféré?
Ben, je pense que ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu vas chercher le fil le plus cher possible et puis tu le passes dans tes dépenses conjointes.
Ben, c'est parce que là, j'ai menacé. J'ai
menacé. Dépenses conjointes à la maison?
Oui, c'est ça, parce que là, j'ai menacé. J'ai dit, le prochain resto, je le paye pas.
OK, on est dans la manifestation.
Je suis allé avec une menace.
Hey, sérieux, Jeff, là, Jeff est sérieux. C'est un cerveau, il est tout le temps... quand il m'arrive avec une histoire de même.
Ah, non, non,
moi, j'ai plus beaucoup d'émotions à faire quelque chose.
Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. On va aller voir Lambert Drainville, justement, qui est en Londres, parce que c'est le sujet de discussion. C'est le, je devrais dire, c'est le moment de discussion avec Lambert et Farnell le vendredi, toujours de midi 5 environ, midi 20, midi 25. Lambert, tu as déjà travaillé, toi, avec ton père. T'as-tu déjà fait quelque chose comme ça?
Non, pas en tout. Non, nous, on a toujours été assez bons pour séparer le professionnel du personnel.
Oui, exactement.
Je te dirais que de ce temps-ci, c'est de plus en plus compliqué, par contre.
Oui.
Ah oui, pourquoi?
Oui. Ben oui.
Il y a quelque chose qui se passe.
Oui, on n'est pas au courant.
Non, mais c'est quand il est sorti des studios de Boulevard l'autre jour, on lui a dit, il nous a dit, vous avez des enfants, puis moi, Yannick Marceau, on a dit oui. Ben, tu sais ça. Il dit, vous allez comprendre. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile dans la position où il est présentement.
Ouais, non, c'est plus ça avance, laisse-moi dire, plus c'est vraiment weird. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est drôle parce que j'en parlais avec Farnell au téléphone cette semaine, esprit. Puis c'est ça, c'est quand même une position qui est particulière. Là, tu veux être là en tant que fils pour supporter ton père, tu lui souhaites le meilleur, mais en même temps, tu as un rôle aussi dans les médias puis sur les médias sociaux. Fait que tu as un devoir de réserve, tu as un devoir de recul. Puis ouf! Les gens, évidemment, remettent ça en question.
On t'attaque-tu là-dessus, Lambert?
Absolument, absolument. Puis c'est ça, là, c'est pas une journée facile aujourd'hui, je vais vous le dire. Là. C'est une journée où je suis moins de bonne humeur que d'habitude. J'ai un travail à faire, je pense, de détachement par rapport aux commentaires qu'on fait sur les médias sociaux. Là, j'ai pas encore développé la capacité d'avoir le recul nécessaire pour juste vivre ma vie, avancer et que ça me passe 10 pieds par-dessus la tête.
C'est-tu la première fois que tu es exposé de cette manière-là? Probablement oui, vu que ta job est rendue plus publique. Là. Avant, c'était les gens que tu chapeautais en politique qui le vivaient. Là, c'est toi.
Ouais, exact, exact. C'est un peu une nouvelle réalité, puis c'est pas pour me victimiser du tout, là.
Non, non, non.
Je me victimise pas, mais c'est ça, c'est une nouvelle réalité. Farnell, lui, ça fait beaucoup plus longtemps que moi qu'il fait des vidéos sur les médias sociaux, fait que je pense qu'il a une meilleure capacité que moi pour l'instant à faire la part des choses, mais... C'est de la merde.
Ouais. Justement, Farnell, j'allais te poser la question. Comment tu as fait pour te créer cette carapace-là? Parce que tu sais, je regarde toutes tes vidéos sur les médias sociaux, puis je regarde des commentaires aussi. Pas toujours élogieux. Comment tu fais?
Il y a une espèce de tabou d'en parler, parce que d'un côté, tu veux pas encourager les gens méchants à leur donner l'impression que ce qu'ils font, ça marche, parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça t'affecte. Mm-hmm. Mais ça fait toujours mal. Les seules personnes qui peuvent vraiment dire ça m'affecte pas, c'est des sociopathe, puis on y en a pas beaucoup. Ça fait toujours mal. C'est juste qu'éventuellement, tu sais, quand la première claque a fait mal, la cinquième a fait un petit peu moins mal, puis la 250e, ben tu l'encaisses puis tu passes au prochain. Là. Ils font tout mal, mais t'avances. T'sais.
Qu'est-ce qui fait le plus mal au niveau psychologique, dans le sens où on critique votre valeur ou on critique votre physique?
Ah, moi, que les gens me disent qu'ils m'aiment pas à face, je suis comme, moi non plus, je m'aime pas à face. Fait que c'est correct. Là-dessus, on est d'accord. Non, moi, ce qui me fait mal, c'est les gens qui, après avoir écouté 15 secondes d'une vidéo, remettent en question l'entièreté de mon intégrité. Ça, c'est douloureux.
Moi, ouais, je comprends. Parce que, en plus, que toi, dans ta fonction de juriste, quand
tu
amènes quelque
chose,
en ligne, c'est vraiment, t'es pensé, structuré, vérifié. Ouais. Donc, c'est intègre par le fait même. Toi, Lambert, qu'est-ce qui te fait le plus mal dans les commentaires que tu reçois?
Un peu la même chose, je te dirais, je pense que c'est, tu sais, j'ai pas d'enjeu à ce que les gens trouvent ça weird, là, tu sais, je suis le premier, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, que je trouve ça weird, la situation dans laquelle je me trouve, je pense que c'est une première au Québec, là, ben honnêtement, là, en tout cas, j'ai fait une petite recherche. Le fils de René Lévesque était journaliste au Devoir à l'époque, quand son père était en politique, mais il commentait pas la politique provinciale, il commentait le municipal puis la politique internationale, fait que c'était pas exactement la même chose, là, un fils de... candidat pour être premier ministre qui parle et analyse les dossiers en politique provinciale alors que son père a deux mains dedans, c'est probablement une première. Puis je comprends l'image que ça peut donner. Moi, c'est ce qui me fait le plus de peine, je pense, c'est le fait que les gens soient pas capables de faire la part des choses puis pensent que, tu sais, je suis pas au courant ou que je suis mal intentionné, tu sais, je veux dire, je suis dans une position qui est pas facile, puis j'essaye de prendre le recul nécessaire, mais ça demeure quand même mon père, tu sais, fait que, est-ce que, si on me demande, est-ce que, tu sais, est-ce que j'aimerais ça? T'aimerais-tu ça en tant que fils que ton père gagne la course à la chefferie?
Ben, c'est clair.
La réponse, c'est oui. Là,
surtout quand le poste de premier ministre est en jeu. Là.
C'est mon père. Après ça, est-ce que tu si j'ai analysé ses propositions, ce qu'il propose, les différents gestes politiques qu'il pose, ben là, à ce moment-là, c'est une autre question. Puis moi, c'est quand les gens. En fait, ce qui me fait le plus de peine, c'est les gens qui pensent, qui assument que je ne suis pas capable de me faire ma propre idée. T'sais. Puis j'ai pris position en faveur du troisième lien sur vos ondes, puis sur différentes plateformes récemment. Puis les gens commentent, bon, c'est bien, hein, si ils pensent de même parce que son père pense de même. T'sais, comme si je n'étais pas en mesure de, à 29 ans, me faire ma propre idée, puis que 100% de ma pensée critique relevait de ce que pensent mes parents. Ça, je trouve que c'est un peu blessant, puis je trouve que c'est un manque d'intelligence, ben honnêtement, des gens qui commentent ça.
Mais en plus, j'ai pensé à toi, puis j'ai beaucoup d'empathie pour ça, parce que il y a une affaire. J'ai pas la switch à être en maudit facilement, à mon avis. Il n'y a pas grand-chose qui va venir me gratter l'intérieur du ventre, mais l'injustice, je la trouve tough. Faut que je m'améliore là-dessus. Là. Tout le monde veut vieillir à un moment donné, prendre la maturité, mais Lambert, en ce moment. Puis j'ai partiellement travaillé avec ton père, mais tout ce qui est laïcité est très difficile. Hein? C'est difficile pour certains de l'ingérer avec le port du voile, certaines femmes qui ne travailleront plus parce qu'elles ont décidé de continuer à exercer leur religion puis tout ce que ça comporte. Puis je regardais les commentaires sous les publications de Bernard Drainville hier quand il faisait l'annonce puis essayait de justifier tout ça puis il était questionné. Et il y avait beaucoup de messages genre sexiste, raciste, tu es ci, tu es ça. Considères-tu ton père comme étant sexiste et raciste en général dans la vie?
Vraiment.
Il n'y a pas de réponse autre que ben non, évidemment. Là,
je dis, ben écoute, ben si il dit oui, on a quelque chose là.
Vraiment, c'est de la façon qu'il m'a élevé.
Je suis journaliste de formation, je tentais.
Non, évidemment que non, absolument pas. Puis tu sais, ben honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont une image de Bernard dans la sphère publique, puis je l'ai vécu quand j'étais à l'intérieur du gouvernement, tu sais, des gens qui le connaissaient comme analyste politique, puis quand il est devenu ministre au gouvernement, ben ils ont appris à le côtoyer en coulisses, puis là, ils venaient me voir pour me dire « Ah, ben c'est le fun, tu sais, j'apprends à connaître un être humain qui, bon, est plus, beaucoup plus empathique que ce que je pensais, beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux que ce que je pensais. Fait que souvent, les gens se basent sur une perception d'une sortie publique ou juste d'une opinion qui n'est pas la leur pour définir 100% de la valeur de l'homme. Puis ça, encore une fois, je trouve que c'est un grand manque d'intelligence. Là, des gens qui ne sont pas capables de faire la part des choses. Je trouve que faut foncièrement que tu aies la tête dans le cul ou la tête dans le sable pour penser que... pour être incapable de prendre un pas de recul puis de dire... de faire preuve de jugeote, pour faire preuve d'un petit peu de nuance, bref, dans ce genre de commentaires-là que tu soulevais, Pascal, de comme... T'sais, tu peux insulter la position, tu peux insulter la façon dont cette position-là est livrée, mais de là à insulter la personne, son intégrité puis ses valeurs, moi, je trouve c'est là que je débarque. Là, t'sais, pis c'est ça.
J'ai une bonne idée pour ton monter le moral, Lambert Drainville.
Oui?
Je te fais écouter 35 secondes de Ruba Gazal lorsque je lui ai posé la question. Votre règle là, pour favoriser les femmes et les non-binaires, ben c'est pas ouais. paritaire avec les hommes. Voici sa réponse.
En fait, c'est que c'est pas une mesure pour exclure. C'est que tout le monde crie puis dit ça n'a pas de bon sens, on n'arrive pas à amener des femmes en politique. Mais après ça, ils font absolument rien. C'est ce qui fait que jamais dans l'histoire du Parlement du Québec depuis plus de 150 ans, 160 ans, il n'y a jamais eu 50% de femmes. Il n'y a jamais eu une majorité de femmes. On est en 2026, là, on n'est pas en Iran. On n'est pas en Afghanistan. Et donc, nous, on prend ça au sérieux, contrairement aux autres qui préfèrent juste s'en plaindre puis ils font rien. Donc, l'idée, c'est d'amener plus de femmes. On prend ça au sérieux, c'est ce qu'on a toujours fait, puis on continue à le faire.
Moi, je trouve que cette règle-là, et je prends position, était une très mauvaise règle. L'est encore, parce qu'elle existe encore, en raison qu'on peut se priver de candidats de marque comme Alexandre Boulris. Et là, on est obligé de faire une exception à la règle.
Ouais, tu disais que tu allais me mettre de bonne humeur, ça fait pas mal l'inverse que c'est ton père d'après moi.
Oui, j'ai fait du sarcasme.
Oui, c'est ça. Écoute, on est un des parlements sur la planète qui a la plus forte représentativité féminine à l'Assemblée nationale. On a pogné un record en 2022, on en a déjà parlé, c'est 46% des femmes qui ont été élues au Québec, c'est absolument fantastique. Là. En 2003, on était très, début des années 2000, on était très, très loin de ce compte-là. Fait que déjà, de prime abord, j'ai un gros, gros malaise avec le fait qu'elle est incapable de reconnaître tout le chemin parcouru. Puis écoute, on n'est peut-être pas à 50%, mais de tous les endroits dans le monde, on est dans le top 5 certainement des endroits où on s'approche de ce 50%-là. On est à 46. Fait que tu sais, on ne s'est pas gagné, mais c'est tout un gain quand même. Puis après ça, moi, je trouve que c'est très, très contradictoire. Si tu es pour mettre une règle en place pour avantager les candidatures féminines, l'intention est noble. Évidemment que je suis pour ça. Puis si c'est ta décision en tant que parti, bien, garde, c'est ta décision en tant que parti, puis vis avec, puis va de l'avant. Puis si tu obtiens les résultats escomptés, bien, ce sera tant mieux. Moi, je vais me réjouir du fait qu'il y ait plus de femmes qui se fassent élire dans ton parti politique. Mais là, tabarouette, il me semble que ça envoie un message complètement opposé quand tu dis ben on va favoriser les candidatures féminines et non binaires, mais dès qu'il y a un candidat homme qui est connu et aimé, puis on s'entend, là, Alexandre Boulris, bon, il a fait sa marque comme un bon député dans Rosemont, mais c'est pas René Lévesque, là, tabarouette, là, ils viennent pas te tasser, tu sais. Fait que là, du moment que t'as un gars qui est... Tu sais, c'est le message que ça envoie. Moi, je trouve que c'est complètement contradictoire. Et c'est tellement... C'est encore une fois, Jeff, à chaque fois qu'on se parle de Québec solidaire, moi, c'est même pas tant la position qu'ils prennent que j'ai l'impression que c'est pas conséquent. Là, le message que ça envoie, c'est que dès que t'as un gars qui est un minimum connu, un minimum aimé dans son bout, ben on va tasser notre règle. Puis la femme qui aurait dû être là, ben on va tasser, on va mettre un homme parce qu'il est connu et aimé. Fait que je trouve que ça, au final, là, en essayant de prétendre à la vertu, tu as le résultat complètement opposé où ce que tu envoies le message que dès qu'il y a un gars qui est semi-bon, ben tu tasses la femme et tu c'est lui qui va avoir la place. En tout cas, je sais pas ce que Parnell en pense, mais.
Ouais, moi, j'ai l'instinct de surprendre un pas de recul. Je veux dire d'emblée, là, je pense pas que des quotas formels dans comment on va choisir nos candidats, c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Mais tout en s'opposant à cette position-là, je pense que c'est important d'essayer de la comprendre parce que tu peux pas avoir une opposition intelligente si tu comprends pas la position adverse. Je crois que la position favorable à des quotas, puis encore une fois, je fais l'argument sans être d'accord avec, c'est que quand on constate qu'il y a un déséquilibre, surtout dans des questions sociales, c'est surtout une question de qu'est-ce que les gens voient? Est-ce que les gens voient que c'est possible? La meilleure façon que tu peux envoyer le signal à un groupe, quel qu'il soit, qu'ils ont une place à quelque part, c'est montrer des gens de ce groupe-là dans cet endroit-là. Alors, si tu veux envoyer un signal qu'il y a la place pour plus de femmes en politique, tu mets plus de femmes en politique. L'idée, alors, c'est en disant, ben, on constate qu'il y a un déséquilibre. Alors, on va mettre un doigt, un pouce sur la balance d'un bord, le temps qu'il y ait plus de femmes qui embarquent, puis après ça, ça va s'équilibrer tout seul. C'est ça l'objectif. Mais ça mène justement, comme tu le dis, je pense à des situations qui sont très difficiles à justifier, qui heurtent le sentiment d'égalité, d'équité de base. Quand tu es en train d'avouer, oui, on est en train de mettre un pouce sur la balance dans l'objectif qu'éventuellement peut être obligé de faire, je pense que c'est l'effet à long terme de politique de même, c'est que tu te ramasses à être pas mal toujours obligé de garder le pouce sur la balance.
En effet, est-ce que ça aurait été mieux de ne pas faire de règles, mais... T'es dans les faits, derrière des portes closes, tu dis « Hey, écoute, on va travailler fort pour aller chercher des candidatures féminines. »
Ben, c'est ce que tous les autres partis disent qu'ils font. Puis la position de Québec solidaire là-dessus, c'est de dire « Ben oui, tous les partis disent qu'ils font. » Puis en pratique, le résultat n'est pas là.
Mais pourtant, 46% des femmes élues, c'est un bon résultat en crime.
Exactement.
Là.
Puis c'est pour ça que je suis en train de dire, t'sais, justement, là, ils ont mis le doigt sur la balance et puis il y a plus de femmes qui ont embarqué. Ben c'est vrai qu'on n'est pas totalement à 50-50, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'institutionnaliser, d'en faire une règle formelle qui va après ça devenir très difficile à enlever par la suite, parce qu'il va toujours avoir une pression politique pour la garder, qui va créer une tension constante, qui va devenir une espèce de compromis un peu malsain. T'sais, je comprends l'objectif, je pense que c'est noble vouloir avoir de la parité par n'importe quel moyen qui n'est pas nocif à long terme, mais je crois que des quotas formels, ça va trop loin.
Mais je vais me permettre d'intervenir parce que je suis comme la seule fille autour de la table par rapport à ça, puis je pense que je fais un métier qui était majoritairement masculin jusqu'à tout récemment et encore. Puis la place de la femme à la radio, puis dans le commentaire, puis la politique, était très peu offerte à quelqu'un, surtout à une jeune femme. Puis il y a une chose qui, moi, me comblerait de malaise, tu sais, parce que comblerait, j'aurais un job, mais de malaise, donc pas pour la bonne raison, ce serait d'être choisie et sélectionnée parce que je suis une femme et il faut une femme dans l'équipe et il faut... Puis ça, si à un moment donné, je le sens, ça ne me tentera plus de faire ma job, ça ne me tentera plus d'être à une place qui. Puis c'est toujours un questionnement que j'ai. Ça serait de la dévalorisation, je pense, de ma personne. Puis je me dis, OK, combien de temps j'ai en onde? Est-ce que je peux m'exprimer? Je peux-tu mettre des connaissances sur la table? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce qu'il y a un boss qui dit, ah, exprime-toi pas trop là-dessus parce que c'est pas vraiment intéressant pour quelqu'un de t'entendre? Tout ça, je l'emmagasine à un moment, puis je me dis, si ça m'arrivait régulièrement, ben je serais pas là. Parce que pour moi, c'est pas du vrai féminisme. Je ne veux pas être là, puis je ne suis pas une extrême féministe, mais si j'ai un poste, j'aimerais ça que ce soit parce qu'elle est qualifiée pour le faire. Fait que s'il y avait des quotas ou quoi que ce soit, puis que ce serait dans ce sens-là que j'aurais un emploi, j'aurais un malaise. Puis ça, c'est ma perception personnelle de ça. Mais j'avoue, par contre, qu'il faut une ouverture à se dire, hey, des fois, on est-tu dans des paradigmes, des stéréotypes, puis ouais. On met pas une fille là, puis on devrait... Fait que hey, la limite et les eaux dans lesquelles on nage, c'est compliqué.
Ben, tu sais ce que tu dis, je pense que tu frappes directement sur le clou. Tu veux savoir que tu es qualifié pour être là, puis tu veux savoir que tu as été choisi pour les qualifications, mais ça ne nous empêche pas de remettre en question c'est quoi qu'on considère comme critère de qualification des fois.
Oui.
Et puis ça, tu n'es pas obligé de passer par des quotas pour faire ce travail-là à l'interne.
C'est un peu ce que je pense ouais. aussi.
Lambert, tu as déjà été dans des caucus politiques. Est-ce qu'on discute justement de la place des femmes? Puis est-ce qu'on se dit des fois, « Hey, j'ai deux candidats égales. » Je vais prendre justement la candidate féminine parce que c'est important la représentation des femmes en politique.
Bien, le résultat de 2022, quand on parlait du 46%, c'est pas le résultat de quotas formels qui ont été mis en place. Puis c'est pour ça que moi, je suis dans l'idée, surtout au Québec, les quotas, j'ai vérifié avant d'entrer en onde, la science montre que les quotas, ça fonctionne. T'sais, quand que les quotas sont mis en place dans certaines législatures où particulièrement tu as un déséquilibre marqué. Il y avait des études qui ont été faites en Inde, par exemple. Ça peut sérieusement donner un coup de pouce, mais cette différence-là est portée à diminuer. Ben, plus il y a de femmes qui sont naturellement représentées. Puis le 46% qu'on a atteint, on ne l'a pas atteint avec des quotas au Québec. On l'a atteint parce que les partis politiques se sont simplement dit, ben, on est rendu là. Puis nous autres, la CAQ s'était engagée en 2022 à ce que 55% de leurs candidates soient des candidates féminines. Et Québec solidaire avait, eux autres, c'était 60%. Fait que tu sais, Québec solidaire ont réussi à faire élire des femmes, puis on en est arrivé à un résultat qui est probant, sans quota, avec un désir naturel de dire, ben écoutez, à un moment donné, là, on peut-tu s'enlever la tête dans le sable encore une fois, puis juste arriver en 2026, puis se dire, ben que ce soit, tu sais, je veux dire, les femmes, des femmes compétentes et brillantes sont partout autour de nous. On n'a pas besoin de quotas pour atteindre une zone paritaire. Et l'élection de 2022 l'a montré. Fait que moi, vois-tu, je suis un peu au même endroit que Farnell sur les quotas en soi. Tu sais, au Québec spécifiquement, je pense pas qu'on a besoin de ça là où on est rendu. Je pense qu'on a plus besoin de mettre des règles très, très strictes, puis tatata, tu sais. Je trouve même que ça envoie, encore une fois, pas le bon message. Je trouve que juste de dire, regarde, il y a un paquet de femmes compétentes, puis on va les porter candidates parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont compétentes, puis elles vont être élues. Puis une fois qu'elles vont être élues, ben sais-tu quoi? On va en nommer dans des postes de ministre d'envergure. Tu sais, on regarde Sonia Lebel, on regarde Geneviève Guilbeault, on regarde Martine Biron, on regarde Pascal Derry, on regarde... Tu sais, c'est pas juste aussi de nommer des candidatures, c'est qu'après ça, une fois rendu au gouvernement, tu sois capable de les nommer dans des postes où ils peuvent faire la différence.
Et à sens inverse, honnêtement, encore là, opinion personnelle, j'ai pas envie qu'on exerce la parité dans le déficit masculin, dans le sens où de pas privilégier les candidatures féminines et rejeter systématiquement les candidatures masculine dans ce cas-ci. Tu sais, moi, je suis très capable de, si, mettons, Farnell et moi, on convoite le même poste, d'essayer de prouver que je peux l'avoir. Puis si c'est Farnell qui l'a parce qu'il a plus de compétences, je vais être très contente pour lui. J'embarquerai pas aussi dans un genre de lutte. Ah, vous l'avez choisi parce que c'est un homme. Je pense qu'il y a ça sur quoi on doit faire attention mm-hmm. aussi.
Non, en effet.
Puis, Jeff, je veux pas t'interrompre, mais elle s'est fait poser la question à Ruba Gazal à l'Assemblée nationale. Puis tu sais, quand je te parlais de pas être conséquent, tu sais, elle se fait demander, là, qu'est-ce qu'il y en a d'Alexandre Boulris? Puis là, elle dit, ah, j'ai pas envie de répondre sur Alexandre. J'ai pas envie de répondre sur Alexandre Boulris. On sait pas encore ce qui va arriver. Ils ont voté pour tasser une règle, pour se laisser ce gars-là présenter. Puis là, deux jours après, à l'Assemblée nationale, elle refuse de comme s'avancer sur ce gars-là spécifiquement. Tu sais, c'est comme...
Un pas en avant, trois pas en arrière.
Pourquoi tu l'as tassé si c'était pas pour lui? Ben là, c'était... T'sais, là, elle parlait d'une candidature de qualité. Là. Ce sera une candidature masculine de qualité, puis t'es comme...
Alors, mais on sait tout, puis Bullrich joue le jeu en plus d'aller au congrès du NPD. Il y a un énorme malaise dans tout ça. Hey, les gars, je vous remercie infiniment de vous être ouvert le cœur sur les commentaires que vous recevez sur les médias sociaux. Je pense que c'est très important de décrier ces situations-là. Moi, je l'avais fait durant la campagne électorale municipale quand quelqu'un m'avait dit sur les médias sociaux « t'aurais dû te suicider », fait que je l'avais décrié à la radio. Alors, merci infiniment, les boys, de vous être ouvert là-dessus.
Faites toujours plaisir.
Cool! On se reparle la semaine prochaine. Et Lambert, on se parle mercredi parce que les mercredis, c'est ta chronique aux alentours de 13h que cette semaine, tu étais absent de façon circonstancielle et exceptionnelle.
Voilà, on se parle mercredi.
Et oublie pas, Jeff, le conseil de Farnell. Hein, tu devrais mettre ton fil d'ordinateur sur le compte conjoint.
Oui, non, je l'oublie pas.
Puis achète-en un cher.
T'es le meilleur juriste. Farnell est le meilleur juriste pour moi. Merci les gars, toujours un bonheur de jaser avec vous le vendredi.
Hey, ciao la gang.
Salut.
À Boulevard 102. Avec Jeff.